RFI.
Alors, on dit quoi ?
Wassalam alaikum, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes sur RFI et vous écoutez Alors on dit quoi qui s'intéresse aujourd'hui à l'hygiène menstruelle. La ménarche, la première période de menstruation, est un moment essentiel dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Qu'on les attende avec impatience ou qu'on les redoute, les règles arrivent avec la puberté. Mais des études démontrent que dans de nombreux pays, les filles vivent leurs premières règles avec trop peu d'informations et d'aide. Elles font pourtant partie intégrante de la vie, ces fameuses règles. Il est temps, selon nous, de mieux comprendre les défis associés à la gestion de l'hygiène menstruelle et d'agir. Agir, c'est aussi ce que fait Happy Afrique, une entreprise sociale sénégalaise qui propose des solutions innovantes, locales et respectueuses de l'environnement pour l'hygiène des femmes. Nous en parlerons avec la cofondatrice Jeanne-Aurélie Delaunay. Et enfin, toujours au programme d'Alors on dit quoi, les chroniqueuses Joanne et Anna qui vous donneront des conseils pour améliorer votre quotidien et découvrir l'agenda culturel du moment. Atia Nudem, c'est parti.
Alors on dit quoi ? Avec Diarran Diaye.
Alors, on dit quoi a décidé de mettre sur la table un sujet important pour les femmes, les règles, un processus biologique tout à fait normal et naturel. Ce n'est pas une maladie et il n'y a aucune honte à les avoir. Et on va d'ailleurs en parler sur ce plateau aujourd'hui avec nos invités. Bonjour à Aïcha Diakité qui est médecin à Sarcelles en France.
Bonjour.
Bonjour également à Olivia Mbondo qui est cofondatrice de Camerpad. Camerpad fait de la sensibilisation à l'hygiène féminine et produit des protections périodiques lavables 100% made in Cameroun. Bonjour.
Bonjour Diarra.
Et enfin, j'accueille Tara Eusé, qui est présidente de l'association Règles élémentaires, qui collecte notamment des produits d'hygiène intime à destination des femmes sans-abri et mal logées en France. Bonjour Tara.
Bonjour.
Les règles font partie intégrante de la vie des femmes. Cela dit, lors de cette période, elles sont souvent considérées comme sales ou impures et le plus souvent obligées de subir un isolement forcé, une mobilité réduite, voire une interdiction de mener certaines activités. Des freins aux nombreuses conséquences, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant au Tchad, Junior.
C'est une période extrêmement difficile pour les filles et les jeunes femmes au Tchad et dans la plupart des pays africains. En période de menstruation, elles font constamment l'objet de stigmatisation et de discrimination. Elles sont systématiquement écartées des tâches ménagères car la société les considère comme sales ou impures. Amina Priscille Longo est la présidente de la fondation Tchad Helping Hands.
En plus d'être tabou, il y a nos traditions, il y a nos coutumes qui se mettent là-dedans et c'est un peu difficile, vous savez. Par exemple, quand la jeune fille elle a ses règles, elle ne peut pas préparer pour son papa, pour son oncle, elle ne peut pas saluer les garçons. La femme ne peut pas préparer pour son mari initié parce qu'elle a les règles. C'est là où on parle maintenant de la stigmatisation. Quand la jeune fille elle a ses règles, elle ne peut pas s'épanouir.
Certaines attitudes et croyances culturelles autour des menstruations renforcent davantage les inégalités du genre et ont un impact négatif sur l'éducation des filles au Tchad. Yesen Borkam se souvient de l'année où elle a fait face à cela.
Pendant l'année 2016, quand j'étais partie voir mes parents à Koumra, on était juste avec ma grande sœur. Ma grande sœur devrait partir à l'école. Mais ce jour, j'avais aussi vu mes menstrues. Et elle m'a dit, en tant que jeune fille, et avec la tradition et tout ça, c'est pas normal que tu puisses préparer. Il y a beaucoup de gens à la maison. Les gens devraient manger à 12 heures. Elle est partie à l'école. Elle doit rentrer après 12 heures. Et là, j'ai dit, bon, c'est pas normal. Il faut que je me lève et que je prépare. Il y a aussi les jeunes garçons. Et dans cette localité, il y a les garçons qui partent en initiation. Et là-bas, quand une jeune fille voit ses menstrues, elle prépare, les garçons ne mangent pas. Parce qu'ils disent qu'il y a genre sorte d'allergie. Et c'est comme si leur peau se dégrade et puis tout ça. Donc, ils ne mangent pas. Et là, il y avait mon oncle, lui, il était un peu malade. Il a une maladie mentale. Il disait que si une jeune fille qui voit ses règles prépare et qu'il mange, la maladie va commencer avec lui. J'avais réfléchi, j'ai dit, mais là, comment je vais faire? J'ai dit, non, je vais préparer. Et si quelque chose arrive, je vais subir aussi les conséquences. Je me suis levée promptement et j'ai préparé. J'ai donné à toute la maison et aussi l'oncle a mangé. J'attendais si quelque chose va se passer ou non. Mais rien ne s'était passé. Quand ma grande sœur était arrivée, j'avais dit, voilà, J'ai préparé, tout le monde a mangé. Même des garçons initiés ont mangé aussi. Et rien ne s'est produit. Même l'oncle a mangé et j'ai pas vu qu'il a manifesté la maladie.
Ces stéréotypes associés aux menstruations sont des non-sens, croit Amina Ramadan, coordinatrice de l'ONG nationale École Saine Ménage Sain, une ONG qui œuvre dans la gestion de l'hygiène menstruelle au Tchad depuis un an.
C'est un phénomène naturel. Il n'y a pas de saleté, c'est pas une maladie. Le corps se développe toutes les étapes de la vie. Donc les règles ne sont pas une maladie, ne sont pas une malédiction. Elles sont un phénomène naturel. Donc les gens doivent accepter ça.
Un sondage réalisé par l'UNICEF auprès des jeunes tchadiens renseigne que sur plus de 20 000 filles interrogées, seulement 56% connaissent la gestion de l'hygiène menstruelle, 60% sont gênées pendant leur période, 22% ont des problèmes de protection et 46% des garçons reconnaissent taquiner les filles en règle. Depuis 3 ans, la Fondation Tchad Helpings a décidé de mener un combat contre tout cela. Explication de la présidente de cette fondation.
Nous travaillons beaucoup plus à sensibiliser les parents, à parler avec leurs filles, à leur expliquer, à leur montrer les voies pour une bonne gestion d'hygiène menstruelle. Par exemple, moi, quand j'ai eu mes premières règles, je n'ai jamais eu de discussion avec mes parents, je me suis débrouillée avec les copines. Alors nous sensibilisons les parents à parler avec leurs jeunes filles, parce que les parents, ils veulent pas que les filles ramènent des grossesses indésirées à la maison, mais on n'apprend pas à la jeune fille comment gérer sa période de menstruation. Comment gérer son cycle, c'est très important. Nous sensibilisons aussi les jeunes filles à s'ouvrir, à parler, à poser des questions et à aller aussi vers le corps médical. En même temps, nous faisons aussi un plaidoyer auprès de nos dirigeants pour améliorer en fait les infrastructures hydrosanitaires en milieu scolaire pour que la jeune fille, même pendant les règles, puisse aller à l'école comme il se le doit et qu'elle puisse trouver un coin d'intimité pour s'y réchanger.
Le combat contre le tabou et la stigmatisation des règles au Tchad est loin de terminer, mais l'espoir ne faiblit guère. L'engagement des décideurs et des autres organisations de la société civile augure un bon résultat.
Merci infiniment Junior pour ce reportage. Le combat se poursuit ici dans Alors on dit quoi, car nous parlons de tout sans tabou. Olivia, des tabous, des coutumes et beaucoup d'interrogations et même de croyances populaires autour des règles. C'est un peu ce qui résume le reportage. Qu'avez-vous retenu justement?
Moi j'ai retenu surtout le problème d'infrastructure. C'est vraiment ce que beaucoup de filles vivent comme difficulté au Cameroun, notamment quand elles vont à l'école. Certes, même si elles peuvent, pour certaines, acheter d'ailleurs leurs serviettes, après, qu'est-ce qu'elles en font? Généralement, les toilettes sont bouchées, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à les nettoyer ou bien à faire une sorte de...
Pour nettoyer, tout simplement.
Oui, on n'a pas eu à nettoyer les canalisations, quoi. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que c'est bouché, ça sent mauvais. Mm. Et il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien, en fait. Donc, c'est un manque de dignité pour elle finalement, donc autant parfois ne pas aller à l'école parce que je sais que je pourrais pas vraiment être accueillie dans un environnement sécurisé.
Voilà. C'est vrai que parmi les conséquences autour de ces règles, c'est qu'il y a beaucoup de petites filles qui s'absentent lors de leur période de menstrues.
Tout à fait.
Tara, vous êtes étonnée, vous, de voir que dans certaines cultures, la nourriture préparée par les femmes ayant leurs règles soit interdite, impropre même à la consommation?
Alors non, pas étonnée, car ça fait bientôt 3 ans et demi que j'ai fondé Règles élémentaires et que du coup j'ai conscience du poids des tabous en Afrique, mais aussi en Europe et dans toutes les cultures. En France, il y a encore un gros tabou sur le sujet des règles. Par le passé, il y avait aussi beaucoup de ces croyances et notamment l'impureté des femmes et le fait qu'elles pouvaient abîmer les plantations et rendre le sol infertile, bref, des choses assez absurdes. Donc le poids des croyances, le poids des cultures et les tabous multiples qui entourent ce sujet sont un problème en Afrique, mais aussi en Europe. Et je tiens à rappeler que le dernier sondage en date de l'IFOP sur la précarité menstruelle indique que près de 2 millions de femmes en France sont victimes de la précarité menstruelle. Donc c'est un vrai sujet sur tous les continents.
Donc on va aborder bien sûr. Aïcha Diakité, sale, impure, beaucoup de qualificatifs négatifs autour des règles. Quels sont vos premiers mots qui vous viennent à l'esprit après la diffusion de ce reportage?
C'est assez étonnant parce que finalement, s'il y a bien quelque chose dans le corps humain qui est propre finalement, qui s'auto-nettoie, c'est le vagin. Donc en fait, je ne comprends pas ce côté impur, ce côté sale. Le vagin, c'est un système qui s'auto-nettoie. Donc il y a pas de saleté, il y a pas de choses comme ça. Paradoxalement, il y a donc comme disaient mes collègues, la tradition, la culture a un gros poids, mais à côté de ça, on connaît finalement peu notre corps. Quand on interroge ces femmes, elles ne savent pas forcément nous indiquer où se trouve le vagin, la vulve, etc. Donc c'est ça qui est assez paradoxal.
Et comme on a la chance de vous avoir, on va justement apprendre tout cela à peut-être nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Autour de 12 ans, on entre dans la phase de puberté. Bon, il y a les poils qui commencent à pousser sous les aisselles et autres, les seins qui commencent à grossir. Et on a ces fameuses règles. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps des femmes à ce moment-là?
Alors en fait, vous avez donc l'utérus qui est le lieu où justement on peut avoir une grossesse, et en fait vous avez une petite muqueuse qui s'appelle l'endomètre qui se met à pousser sous l'influence en fait des hormones qui commencent à se développer à cet âge-là, et en fait vous avez un jeu d'hormones qui se met en place, et à la fin du cycle, quand vous avez donc l'hormone féminine, les œstrogènes qui chutent, à ce moment-là ça provoque les règles. Donc c'est un jeu en fait d'hormones qui se met en place, et en fait les règles ça représente quoi? C'est ce fin tissu d'endomètre qui se met en fait à couler, à se détruire, et qui se restitue tous les mois.
Et combien de temps justement dure ce cycle?
Alors c'est très variable d'une femme à l'autre. On dit qu'en moyenne c'est 28 jours, mais ça peut aller entre 28, 32, voire même plus chez certaines femmes. Plus court aussi chez d'autres. Après, ça peut être influencé par le stress, par le voyage, etc. On peut avoir des petits retards. C'est pas forcément un jour fixe.
Et
les
règles sont parfois accompagnées de douleurs. Est-ce normal d'avoir mal?
Alors, on peut en effet avoir des douleurs. Après, il y a douleur et douleur. Il faut bien sûr en parler toujours à son médecin. Ce que je considère anormal, c'est de rester prostré dans son lit 4 jours par mois. Ça, c'est pas normal. Après, si vous avez une douleur qui est soulagée par des antalgiques classiques du type paracétamol, ibuprofène, bon... ça peut rester encore normal, mais par contre voilà, si on est alité 6 jours par mois, non, ça c'est pas possible.
Là, il faut consulter.
Exactement.
Et j'ai vu en faisant des recherches que les femmes excisées courent plus de risques de connaître des problèmes de santé lors de leur menstruation avérée.
Alors, après il y a un biais aussi, c'est que les femmes excisées aussi ne consultent peut-être moins souvent, de par justement les mutilations qu'elles ont subies, et donc parfois on a des retards diagnostiques liés à ça. De manière classique, si on est à distance de l'excision, il n'y a pas de raison qu'elle fasse plus d'infections que d'autres. Si ce n'est le retard diagnostique, parce que justement, elle ne consulte pas.
D'accord. Un petit jeu, un petit vrai-faux, comme ça on va continuer de parler de ces règles et de les comprendre surtout. Vous me dites si c'est vrai ou faux. Hein. Alors, après avoir eu les premières règles, si une fille a des relations sexuelles non protégées, elle peut tomber enceinte.
Alors, elle peut tomber enceinte. Ça dépend donc de la période du cycle, ça dépend de plusieurs choses, mais oui, tout à fait, c'est possible.
Et donc, il faut se protéger.
Il faut se protéger, tout à fait.
Et on peut attraper une maladie comme le VIH si on a des rapports sexuels non protégés.
Vrai
ou faux?
Tout à fait, vrai.
Une autre question d'un auditeur, cette fois, n'a rien à voir avec le vrai ou faux. J'ai une question. Docteur Aïcha, peut-on avoir un rapport sexuel avec une femme qui a ses règles?
Oui, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Après, c'est une entente entre le couple, mais en tout cas, physiologiquement parlant, médicalement parlant, il n'y a pas d'argument pour interdire le rapport sexuel pendant cette période.
Parfois, durant ces règles, Tara, cette fois je me tourne vers vous, on se sent différente, peut-être un petit peu fatiguée, un petit peu un manque d'appétit, ou voilà. Comment se sentir mieux durant cette période?
Alors, je vais essentiellement parler du public qu'on aide. Donc, nous, avec l'association Règles élémentaires, on aide les femmes en situation de précarité précarité, quelle qu'elle soit, donc sans abri, mal logé, mais ça peut également être des étudiantes en situation de précarité ou des familles monoparentales. Le premier sujet pour ces femmes, quand elles ont leurs règles, en plus de tous les inconforts qu'on peut expérimenter quand on a un toit sur la tête et de quoi se nourrir, c'est la difficulté à se procurer ce type de produit. Donc non seulement elles vivent l'inconfort lié à leur menstruation, mais en plus elles ont la charge mentale de savoir comment elles vont faire pour gérer ces règles. Ça va parfois être un système D, ça va parfois être je vais manquer l'école, je vais manquer le travail. Pour certaines femmes en situation d'extrême précarité à la rue, vous imaginez bien que si vous n'êtes pas capable de vous protéger, vous serez encore moins capable d'aller vous présenter un entretien ou des choses comme ça. Donc il y a réellement un sujet sur l'accès de ces produits. Donc nous, avec Règles élémentaires, on essaye de mettre à disposition au maximum ces produits à toutes les femmes dans le besoin en France et un petit peu en Belgique maintenant. Et globalement aussi, ce qui est très important, c'est que les cycles de chacune sont très différents, on l'a vu. Les besoins de chacune sont très différents. Donc nous, on accorde une réelle importance à laisser le choix à ces femmes et du coup, on leur met à disposition des dons très différents, des produits très différents, des protections classiques, des protections bio, des protections réutilisables pour que chacune ait la liberté de sa protection et qui pourra lui permettre de vivre ce moment pas forcément agréable de manière plus confortable.
Moins confortable. C'est un phénomène aussi naturel que manger, boire ou dormir et pourtant on en parle peu, il s'agit des règles. En moyenne, les femmes ont leurs règles environ 400 fois dans leur vie. Ça fait beaucoup et on en parle justement cette semaine dans Alors on dit quoi ?
Alors on dit quoi ? Jaranjay.
Continuons de parler de précarité menstruelle en France, notamment Tara. Tout à l'heure, vous aviez cité le chiffre de l'enquête IFOP. 1,7 million de femmes manqueraient de protection en France. Que vous évoque ce chiffre ?
C'est absolument énorme, c'est inadmissible et on essaye de tout faire pour qu'il tombe à zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que la précarité menstruelle touche des personnes très différentes et en fait, une manière simple de réfléchir à la précarité menstruelle, c'est de regarder le seuil de pauvreté dans votre pays. Et en fait, toutes les femmes qui vont vivre en dessous de ce seuil de pauvreté vont devoir se poser la question entre acheter des protections hygiéniques ou se nourrir pratiquement tous les mois. Donc c'est assez inadmissible en 2019. Et on réfléchit à pas mal de choses, notamment avec le gouvernement ces derniers temps, pour mettre fin et lutter efficacement à la précarité menstruelle. Donc, outre la mise à disposition de produits d'hygiène intime, on organise avec notre association des ateliers d'information et de formation à l'utilisation des protections hygiéniques réutilisables, parce que au-delà de l'avantage écologique qui est souvent cité, il y a évidemment un avantage économique
absolument.
Mais Olivia pourra nous en dire plus. Donc c'est vraiment très important d'informer sur l'existence de ce sujet, donc les serviettes lavables, mais aussi les coupes menstruelles, depuis peu les culottes menstruelles. Il existe pléthore de choix et ça permettrait de réduire beaucoup cette précarité menstruelle parce que, titre d'exemple, une cup va durer entre 10 et 15 ans et ça va coûter entre 15 et 30 euros versus un paquet de tampons qui va coûter en moyenne à Paris, encore une fois, sont des chiffres observés, je n'ai pas les chiffres des industriels, mais environ 5 euros et pour un produit d'une marque traditionnelle, on parle même pas du bio, donc voilà, donc le calcul est vite fait.
Ça coûte cher. Il y a beaucoup d'études, hein, j'avais vu 23 500 euros dans la vie d'une femme, ça coûterait...
Il
y a beaucoup de chiffres qui varient, mais en tout cas, on sait que ça coûte
c'est
cher.
C'est plusieurs milliers d'euros, ça c'est sûr.
Parlons justement d'Olivia et de Camerpad qui proposent des serviettes hygiéniques lavables, 100% en plus made in Cameroun.
Oui, 100% made in Cameroun. Donc Camerpad, c'est un projet qui a été mis en place par quatre amis. Ça fait maintenant 7 ans qu'on existe. Donc on a commencé par faire une étude pour évaluer la possibilité de le faire auprès des femmes. Ça a duré 1 an. À l'issue de cette étude, il y a eu des retours très favorables qui nous a donc permis de lancer l'initiative. On a aussi remporté un certain nombre de récompenses, notamment le prix de la France s'engage au Sud il y a quelques années, qui était piloté par le président de la République de l'époque. Donc toutes ces récompenses nous ont aidé vraiment à nous développer. Et en même temps, sur le terrain, on a rencontré un grand nombre de partenaires. On travaille beaucoup avec les organisations internationales, UNICEF aussi, avec qui on va développer dans les prochains mois un programme de digitalisation à la gestion des jeunes menstrués dans les établissements scolaires. Pourquoi ? Tout à l'heure, on a un peu évoqué
l'absentéisme
scolaire. Donc, avec eux, on aimerait pouvoir sensibiliser à partir de l'école primaire, dès l'école primaire, c'est-à-dire même les classes de CM2 en montant, sur ce que c'est que les règles, en fait. Et surtout permettre à ce que les garçons, quand ils s'aperçoivent que les filles ont leur règle à l'école, ne se moquent pas. Parce que le problème, c'est qu'une fille, quand on s'est moqué d'elle, eh ben, elle perd
confiance en elle.
Voilà. Il y a un grand coup qui est mis sur son estime, sur l'estime d'elle. Donc, ce qui fait que demain, après-demain, elle sera vraiment pas en mesure de mener le combat qui est le sien, à savoir, pouvoir s'affirmer, clairement dans la société.
Aïcha, je vous ai vu acquiescer. Vous partagez ce point de vue. Est-ce qu'il faudrait aussi intégrer, la clé serait finalement d'intégrer l'éducation auprès des jeunes garçons, finalement.
Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue, et plus tôt serait le mieux. Je pense que là, on a des cours d'éducation sexuelle qui arrivent trop tard. Au collège, c'est déjà trop tard. On sait qu'en France, entre autres, la puberté a lieu de plus en plus tôt, dès le CM1, le CM2. Donc, il faut en parler en amont. Il faut pas arriver, en cinquième, quatrième, c'est déjà trop tard.
C'est beaucoup trop tard. Et puis, certains s'informent malheureusement auprès de mauvaises informations, comme sur Internet, par exemple, où il y a parfois des interprétations qui diffèrent. Olivia, revenons-en à Camerpad. Quels sont les avantages de ces serviettes bio que vous proposez?
Ben, écoutez, elles sont réutilisables pendant 18 mois, elles sont lavables, c'est très facile à laver. Une fois qu'elle a été portée, elle est d'abord nettoyée, elle est d'abord rincée, donc dégorger le flux qui a été absorbé, ensuite un deuxième rinçage pour pouvoir laver, on lave et ensuite on fait sécher au soleil. Donc vraiment, c'est les mêmes étapes qu'on suit quand on lave un sous-vêtement, en fait. Et un autre avantage, c'est qu'elle est elle est simple, elle est utilisable partout. On en distribue d'ailleurs aux réfugiés, enfin du moins les partenaires avec lesquels nous travaillons les distribuent aux réfugiés. C'est pour vous dire que même pour des populations nomades comme eux, ils les utilisent parce que ça a cette possibilité d'être assez facilement
transportable.
En même temps, ça réduit aussi un grand problème qu'on a en Afrique, c'est l'environnement, problème de
l'accès à l'eau, peut-être.
Non pas l'accès à l'eau, c'est, je veux parler plutôt de l'environnement, c'est-à-dire
des déchets,
voilà, ça réduit les déchets qui peuvent être faits par les serviettes hygiéniques. À l'heure actuelle, je crois qu'on parle de
500 de pour
voilà
une
on parle de 11 000 serviettes hygiéniques utilisées par une femme, donc elles sont multipliées par le nombre de femmes sur la terre. Je pense que tout de suite ça fait un nombre extrêmement important. Donc avoir des serviettes hygiéniques lavables, c'est vrai que ça permet d'avoir un impact significatif.
Donc il faut en posséder combien justement pour pouvoir tenir le mois avec ces serviettes lavables?
Celle de Camerpad, 6. Juste 6, sachant qu'une femme en porte 3 par jour. Après, une fois qu'elle a bien mis en place sa routine menstruelle, sur 5 jours que peuvent durer les serviettes pour... selon les femmes, bien évidemment. Je pense que c'est largement suffisant. Mais après, vraiment, c'est vraiment chaque femme qui adapte. Peut-être qu'il y en a qui vont demander une dizaine.
Et aussi, ça dépend de chaque femme.
Qui ont besoin de changer toutes les heures. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Et comme je disais, c'est vraiment très important qu'elle soit à l'aise aussi dans ce produit-là.
Tara et Aïcha, est-ce que vous voyez, vous, des inconvénients à l'utilisation de ces serviettes jetables, des serviettes lavables?
Absolument pas. Non, je vois pas d'inconvénients. On voit déjà arriver en France les protège-slips aussi lavables, donc dans le même principe. Et je pense que ça a rendu service à pas mal de femmes qui développaient des eczémas ou des mycoses à cause des protèges types plutôt industriels. Mm-hmm. Donc non, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas suffisamment de recul, mais pour l'instant, j'ai pas de.
Et vous, Tara ?
Alors, de mon point de vue, donc d'une association qui aide les plus précaires, c'est vrai que pour tout le public sans abri, notamment, qui n'a pas accès à l'eau régulièrement, c'est quasiment impossible, parce que c'est quasiment impossible de les laver. Ce sont des populations, bah, paradoxalement aussi nomades, et donc les trimballer, c'est compliqué. Et ensuite, il y a parfois une barrière psychologique à voir son sang, à devoir le laver, à devoir le toucher. Voilà, donc encore une fois, le choix des protections hygiéniques est extrêmement personnel.
Absolument.
Et on a envie de faire le maximum pour informer sur toutes les solutions qui existent, mais ensuite l'objectif est vraiment de laisser le choix à la personne, même si toutes les protections lavables et réutilisables ont clairement un réel avantage économique et écologique.
Et écologique en plus. Et dites-nous, Olivia, combien coûtent ces produits que vous proposez ?
Voilà, j'en ai un là sur le plateau.
Qu'on montrera à nos auditeurs.
Nous vendons un kit à.
Donc que contient ce kit d'abord ?
Donc un kit comprend trois serviettes hygiéniques lavables, trois inserts. L'insert en fait a pour objectif de pouvoir permettre d'augmenter ou de diminuer la capacité d'absorption de la serviette hygiénique. Comme on a dit que chaque femme est différente et voilà. Donc et vous avez aussi un sachet imperméable qui permet de une fois que la femme souhaite se changer à l'extérieur, elle a quand même ce petit sachet qui dans lequel elle peut garder conserver la serviette usagée. Voilà. Donc on le vend à 3000 francs CFA actuellement et on le
fait.
Et
c'est disponible dans quel endroit ?
C'est disponible dans tous les Santa Lucia de Yaoundé de Douala. Actuellement on est en train d'essayer vraiment d'intégrer un grand nombre d'autres grandes surfaces afin de pouvoir vraiment rendre le produit assez disponible au niveau du Cameroun et même à l'extérieur.
Alors, on va bientôt arriver à la fin de ce plateau. Je vais faire un tour de table pour que vous nous laissiez, à nous et à tous nos auditeurs qui nous écoutent, un message fort autour des règles, de l'aspect naturel des choses, mais qui tourne malheureusement autour de grands tabous. Aïcha ?
Alors, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est de s'enquérir plutôt des connaissances médicales, scientifiques, plutôt que de la culture. Maintenant, on a des médias, on a Internet, il faut chercher la bonne information, et c'est absolument pas quelque chose de sale. Les règles ne sont pas sales, le vagin n'est pas sale. Donc ça, il faut vraiment, selon
le dire et le répéter, et je pense qu'on l'a pas mal répété aujourd'hui dans cette émission. Tara?
Moi, j'aimerais faire passer un message sur la précarité menstruelle et dire que tout le monde peut s'engager contre la précarité menstruelle, hommes, femmes, filles, garçons. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez organiser des collectes de produits d'hygiène intime hein, et ensemble, nous pouvons changer les règles.
Changeons les règles, c'est justement le titre de cette émission. Parfait, Tara. Olivia, le mot de la fin.
Je m'adresse toujours, encore une fois, au pouvoir public camerounais. On souhaiterait vraiment qu'ils puissent mettre en place, prévoir un budget qui permettrait à ce que dans toutes les infirmeries scolaires au Cameroun, des établissements au Cameroun, on puisse mettre à disposition des jeunes filles des protections hygiéniques, peu importe qu'elles soient lavables ou jetables, mais qu'on puisse leur permettre, ça leur permettrait donc à elles aussi de venir à l'école et ça permettrait surtout de réduire les disparités qui peuvent y avoir entre les garçons et les filles d'un point de vue scolaire. Ça c'est d'un, et en même temps les infrastructures. Faire quelque chose parce que c'est pas possible qu'une femme puisse avoir ses règles et ne pas aller à l'école. Merci.
Merci Olivia. J'espère que nos auditeurs du Cameroun nous écoutent et notamment les autorités pour ce message. Merci infiniment les filles. Aïcha Diakité, je rappelle que vous êtes médecin en France. Merci à vous.
Merci à vous.
Olivia Mbondo, vous êtes la cofondatrice de Camerpad. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous, Adira.
Et Tara, enfin, merci pour votre participation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Règles élémentaires.
Merci à vous.
Alors, on dit quoi ? Diaran Jai.
Samedi dernier, vous avez été nombreux à nous suivre pour notre émission spéciale mode au Niger. Merci infiniment. D'ailleurs, je souhaitais partager avec vous ce message adorable d'Honoré qui nous interpelle de Lomé.
Hello, Diaran Jai, bonjour, comment est-ce que ça va ? Non, c'est avec plaisir que je vous suis depuis Lomé, Togo. C'est votre fidèle auditeur Honoré Otou, le non-voyant. C'est avec plaisir que je suis chaque fois l'émission. Alors on dit quoi, je ne rate ça jamais. J'avais suivi cela lorsque vous étiez au Niger à propos des modèles, c'était vraiment intéressant. Je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de courage et surtout la perfection dans l'émission, que l'émission soit la meilleure parmi les émissions de RFI, à défaut parmi les meilleures quoi.
Et samedi prochain, direction le Cameroun pour une autre émission spéciale à Yaoundé. Le festival Écran Noir nous ouvrira ses portes afin d'aller à la rencontre des acteurs du cinéma camerounais, mais aussi africain. Et en parlant du Cameroun, je vous propose le son de l'artiste camerounais Taïsé et son titre Ewondo Ubami. Pour l'accompagner, on retrouve le célèbre saxophoniste Manu Dibango. Je vous laisse savourer.
Au Cameroun, ne fais pas ça. Elle a capté qu'on se vite dans la zone de l'Ossa. Faut pas forcer, maintenant elle a fait son choix. Faut la laisser, t'as déjà mangé des bâches plus de 100 fois. Nico, j'ai tout essayé. Je l'ai emmené 4 fois manger au Wenge. C'est là que j'ai capté que t'étais flingué. Moi, je m'étais mis BG. Même par l'état son poulet DG. J'ai posé des tonnes de bouteilles au bambou. Elle m'a dit, taille qu'il n'y a rien entre nous. Là, je suis tuba. Waka, je suis tuba. Dis-moi juste d'où tu viens. Je mettrai 100 balles pour sûreté une bassa. Moi, j'habite pas si loin.
Que mon oncle était dit bango. La gola ne causait qu'au foufou gombo. Avant de la voir, j'ai dû supplier mon banquier. S'il vous plaît, ce soir c'est moi qui dois banquer. À un moment, j'ai même failli lui dire tantôt. Voilà, pardon, descends de mon lambeau. La go avait les fesses aussi solides que le pommier. Aka, pardon, laisse-moi tout payer. Elle m'a paumé.
Taïsé et Manu Dibango avec le titre Ewondo Ubami.
Alors on dit quoi ?
Nous continuons de parler de la ménarche, cette première période de menstruation. C'est un moment essentiel dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Pour en parler, nous accueillons Happy Afrique, une entreprise sociale. Je ne vous en dis pas plus et j'accueille la cofondatrice Jeanne-Aurélie Delaunay. Bonjour.
Bonjour.
La sensibilisation autour des règles est primordiale. Vous êtes une société proposant des produits hygiéniques lavables, mais vous ne faites pas que cela. Le plaidoyer fait aussi partie intégrante de votre mission, notamment autour de l'autonomie des femmes. Parlons de ce volet, Jeanne-Aurélie.
Oui, alors c'est parti d'un constat très simple, c'est qu'on s'est rendu compte que les femmes et les jeunes filles à qui on parlait des règles ne connaissaient rien du tout sur le sujet, ne connaissaient pas leur cycle menstruel. Elles savaient pas à quoi ça faisait vraiment référence en fait. Et vendre des produits à des jeunes filles ou des femmes qui connaissent pas vraiment à quoi ça sert, bon bah c'est un peu dommage. Donc il faut commencer par le côté information, sensibilisation. Et le programme qu'on a monté est parti simplement voilà d'un constat terrain en parlant avec les jeunes filles et les femmes sur place au Sénégal. Donc on a rencontré différents acteurs sur place et on a élaboré ce programme donc qui est vraiment multi-acteurs et multi-support pour parler du cycle menstruel sans tabou.
Donc les parents, les professeurs, quels
oui,
acteurs
oui, oui.
sont
Alors,
intégrés dans le processus?
Vraiment différents acteurs. Bon, il y a Happy Afrique qui est à l'origine de la chose. Alors le programme s'appelle Féminine. Il y a la rencontre avec la plateforme multiconnectée les YAI.
Les mamans,
ouais, les mamans Wolof, parce que elles sont très très connectées au Facebook et tout, elles parlent beaucoup entre elles et tout. C'était, on a rencontré Sena Boutiam qui est devenue vraiment un pilier dans le programme féminine, qui a élaboré le site internet du programme qui s'appelle Changeons les règles. Et qu'on a alimenté grâce à elle pour informer donc les femmes et les jeunes filles. On a rencontré également l'ONG Speak Up Africa, qui dans le cadre d'un programme qui s'appelle une campagne qui s'appelle Menstrues sans tabou, on a pu inclure aussi des éléments comme un petit livret explicatif, des ateliers un peu type moments partagés, palabres, etc.
On a vu aussi en faisant des recherches pour préparer l'émission que vous utilisez notamment beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer, notamment la page Facebook de Féminine. Et vous vous déplacez également sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, les très jeunes.
Voilà, parce qu'il y a le digital, c'est très bien, et on sait qu'au Sénégal maintenant tout le monde a un portable, il y a même plus de portables que d'habitants, hein, donc et tout le monde est très connecté sur Facebook, donc c'est bien. On a une audience majoritairement de femmes entre 18 et 34 ans, c'est la grosse majorité de l'audience, mais on a aussi des plus âgés et des hommes, mais ça fait pas tout le digital. Des fois il faut rencontrer les gens, il faut aller sur le terrain, c'est comme ça qu'on en apprend encore plus. Et d'où l'intérêt de cette campagne Menstrues sans tabou avec Speak Up Africa et les ateliers qu'on a mis en place avec eux. Donc on est allé dans les écoles, on est allé dans les prisons pour femmes, voilà, on met en place plein de choses pour justement libérer un peu la parole et lever les tabous. Et
j'ai vu également que vous travaillez en collaboration avec un centre d'appel au Sénégal, Lydia.
C'est ça, ça c'est via l'autre ONG avec qui on travaille, qui s'appelle DKT. Et c'est un call center, l'India, c'est des sages-femmes qui répondent notamment via la page Facebook tous les matins aux messages des femmes et des jeunes filles.
Donc c'est interactif en plus.
Voilà, voilà, c'est ça. Alors ça peut être via des messages privés aussi, hein, si on n'ose pas appeler, on passe par le message privé. Et elles nous ont dit qu'en moyenne, elles avaient bien deux questions par jour sur les règles.
Donc
voilà, il y a quand même un
sujet. Il y a des interrogations autour de cela. Il y a beaucoup de tabous.
Ouais.
Selon vous, qu'est-il essentiel de retenir, notamment quand on parle de menstrues ?
Que c'est naturel, que c'est la vie. C'est pas, on n'est pas malade. On a des jeunes filles qui nous ont dit « j'ai cru que j'avais Ebola la première fois ». Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, elles n'entendent pas parler des règles avant de les avoir. Donc pour elles, c'est une surprise totale, c'est même une mauvaise surprise.
Qui fait peur.
Qui fait peur. Alors, celles qui sont au courant le sont majoritairement par leur mère, des fois par les amis et souvent par Internet. Donc là, c'est
donc
pareil.
Donc il peut y avoir deux fausses informations.
Voilà, on interprète très différemment les choses. Mais il y a quand même une grosse partie qui n'est pas informée du tout. Et elles, quand elles ont leurs règles, c'est la catastrophe, quoi. Hein. Bon, des fois, ça va de pair aussi un peu avec l'éducation quand même. Le milieu social joue beaucoup. Donc voilà, dans les quartiers pauvres à Dakar, moi c'est l'UNICEF qui avait fait une enquête là-dessus. Il y a près quand même de 45% des jeunes filles qui ratent l'école à cause de leurs règles. Parce que des fois c'est juste
oui, c'est inconfortable,
très inconfortable,
il y a la douleur,
voilà.
Il n'y a pas forcément le choix de
se
changer.
Un manque voilà de structure adaptée, on ne sait pas où poser ses affaires, on n'ose pas aller aux toilettes, des fois les portes ferment pas.
Oui, si justement vous auriez un message à adresser à ces petites filles qui nous écoutent.
Ah bah, le message, on leur dit tous les jours, hein, tout simplement, c'est d'oser en parler. Alors, c'est pas facile, c'est sûr, mais la parole libère beaucoup et ça passe aussi par les hommes et les jeunes. Les jeunes garçons, ils sont quand même assez curieux parce que on a fait une intervention, c'était pour le 8 mars dans un lycée, justement le lycée d'Engaparou, et on avait fait un petit quiz et les garçons sont arrivés premiers, quoi. Donc en fait ils avaient bien compris le sujet et tant qu'on parle pas, et ben justement on libère pas la parole, on crée des tabous, quoi. Voilà, donc il faut parler,
il faut
poser
parler.
Des questions,
et c'est ce qu'on fait dans Alors on dit quoi. Merci infiniment Jeanne Aurélie Delaunay.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes donc la cofondatrice de Happy Afrique.
Alors on dit quoi ?
Emmanuel nous décrit à présent sa vision d'une Afrique qui gagne. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 23 ans et voici mon message pour la jeunesse africaine et l'Afrique en global. Alors l'Afrique de demain, L'Afrique qui gagne se trouve entre les mains de sa jeunesse. Une jeunesse qui doit cesser de rêver et comprendre qu'elle doit être l'entrepreneur de son propre destin. Et aussi, à cause de l'inefficacité, on voit bien, du pouvoir despotique africain largement répandu dans les nations africaines, il est évident aujourd'hui que la jeunesse ne peut plus compter sur ses dirigeants pour se hisser au rang de leader de demain. Il lui faut donc entreprendre, en fait. Mais pour cela, il faut une jeunesse qui ne dorme plus debout, mais une jeunesse désormais maître de son propre destin. Et les clés que je crois être déterminantes pour le futur de l'Afrique sont l'éducation, car l'ignorance vaut plus cher que l'instruction, et le savoir nous permettra à l'Afrique d'être un peuple uni, établi, épanoui et non manipulable. Il faudrait aussi attacher une importance particulière à l'histoire du continent pour les nations respectives, car si quelqu'un, par exemple, méconnaît sa propre histoire, il se condamne inévitablement à répéter les erreurs du passé. Et troisième point, être solidaires les uns des autres, car ensemble, en fait, nous sommes tout simplement plus forts. Par exemple, les Occidentaux sont plutôt développés, car ils ont su se fédérer, avec l'Europe, par exemple. Pour les aînés, j'aimerais dire ceci, accordons, s'il vous plaît, aux jeunes une confiance qui leur permettra d'exploiter et de maximiser leur potentiel. Et en dernier mot, je voudrais dire à la jeunesse africaine qu'il faut oser. Il faut oser le changement et ne pas être freiné par la peur. Merci.
Ne pas être freiné par la peur, au contraire, fonçons pour bâtir notre avenir. Merci beaucoup Emmanuel. Et si vous aussi, vous souhaitez laisser un message, eh bien contactez-nous sur le WhatsApp de notre émission.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Place à présent à la découverte musicale de ce samedi avec la chanteuse Coco Moupala et son titre Africa, extrait de l'EP. Comme tous les week-ends, c'est mon coup de cœur du jour, je vous laisse découvrir.
Coucou l'équipe, alors on dit quoi? C'est Coco Moupala. Alors mon titre Africa, il a été créé en référence à mes origines et a été tourné du coup en Afrique. Le message que je souhaite faire passer, c'est tout simplement d'être fier. Fier de ce que l'on est, de la couleur qu'on porte, fier de nos différences, car c'est ce qui crée les richesses de chacun, et surtout d'assumer notre histoire ensemble. Ce titre, en tout cas, c'est le plus personnel de mon premier projet, qui est un EP à 8 titres. Pourquoi ? Parce que je raconte mon histoire. C'est-à-dire que je suis d'origine congolaise, donc mes parents sont nés au Congo et sont venus en France dans des conditions assez difficiles. Mon père en premier, et lui a vécu certaines guerres civiles au Congo, etc. Il a toujours rêvé d'Europe. Donc il a tout quitté pour venir en France. Et en fait, souvent, je me pose la question, quelle aurait été ma vie ? Ou dans quelles conditions j'aurais grandi si moi j'étais née au pays, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a ici. Et c'est tout simplement un message pour dire qu'il faut porter ses origines fièrement, sachant que c'est ce qui crée vraiment les richesses de chacun, et d'assumer notre histoire.
Africa, c'est ma terre, je veux partir à sa recherche, me balader sous la couleur ébène, je veux faire partie de ces milliers. On dit que je t'ai dans les veines, il est vrai que la musique m'a menacée. Souvent je te vois dans mes rêves, je te veux, je suis venue te chercher. Je veux te faire oublier les blessures sous ton bouclier. Cette jolie terre menacée qu'on exploite par ses ouvriers. Ah, 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 Africa.
Je me demandais si meilleur sera ton chemin.
Africa, souvent j'avançais, la cause.
c'est Coco Mupala et son titre Africa.
Alors, on dit quoi sur RFI?
Et nous accueillons sur ce plateau Joanne, notre chroniqueuse. Bonjour Joanne.
Bonjour Diarra.
Aujourd'hui, vous avez un coup de gueule à pousser justement au sujet des règles.
Oui, un coup de gueule contre les idées reçues sur les règles, qu'on appelle aussi les menstrues. Encore aujourd'hui, le sujet des règles est tabou en Afrique. Et qui dit tabou dit forcément manque d'informations et ignorance. Une ignorance qui peut entraîner des maladies, qui isole socialement les femmes et qui les fait culpabiliser. Donc ce matin, moi j'ai envie de casser quelques idées reçues sur les règles.
Allons-y, on vous écoute.
La première chose qu'on entend tout le temps, c'est que les règles sont sales ou impures. Non mais quelle idée ! Je veux dire, dans certains pays, on isole les femmes pendant leurs menstrues. Les jeunes filles n'ont pas le droit d'aller à l'école pendant cette période. Et lorsqu'elles y vont, on leur demande de conserver leurs serviettes hygiéniques dans leur sac et les jeter uniquement à la maison. Donc, on va remettre les choses dans le contexte. Le mécanisme des règles est naturel et normal. Il est la preuve que le corps de la femme fonctionne bien. Tous les mois, l'utérus se prépare à recevoir un enfant. Si ce n'est pas le cas, la couche superficielle de la muqueuse de l'utérus est évacuée par le vagin sous forme de saignement. Ça n'a aucune incidence sur les personnes qu'on touche et ce n'est pas contagieux.
C'est exactement ce que nous a expliqué le docteur Aïcha tout à l'heure, Joanne. Et on dit souvent qu'on ne peut pas faire de sport pendant les règles.
En voilà une autre idée fausse. Si vous portez une protection adaptée, un tampon par exemple, vous pouvez faire du sport et vous pouvez même nager. Alors par contre, en cas de baignade, changez votre protection avant et après avoir nagé. Si vous ressentez des douleurs, sachez que le sport améliore la circulation sanguine dans la zone pelvienne, ce qui atténue les douleurs menstruelles. Les endorphines qui sont générées par la pratique du sport vont d'ailleurs vous mettre de bonne humeur et vous aideront à mieux gérer tous les aléas de cette période.
Et Joanne, est-ce que les idées fausses sur les règles circulent seulement en Afrique ?
Ah non, pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Dans plusieurs pays, par exemple, on pense qu'on ne peut pas cuisiner certains plats pendant les règles. En Italie, tout ce qu'une femme cuisine pendant ses règles sera une catastrophe. Au Japon, la coutume dit que l'équilibre des goûts serait perdu pendant les règles.
Et on l'a vu tout à l'heure dans le reportage au Tchad.
Ah bah vous voyez. Donc, par conséquent, les femmes au Japon ne peuvent pas être aussi douées que les hommes pour faire des sushis. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une croyance qui est très présente dans la tradition japonaise et qui empêche les femmes de devenir des maîtres sushi.
Merci infiniment, Joanne.
Merci, Diarra.
Avec nous également sur ce plateau, Anna, place à sa rubrique culture. Bonjour, Anna.
Bonjour, Diarra.
Où nous emmenez-vous cette semaine ?
Rendez-vous à Abidjan, Diarra, au fameux Gondwana Club de Maman, à l'hôtel Pullman d'Abidjan.
Super, alors dites-nous en plus.
Eh bien, il s'agit tout simplement d'un lieu dédié à l'humour et aux humoristes, une première en Afrique francophone. Tous les vendredis et samedis soirs, des humoristes africains et d'ailleurs vous proposent leur spectacle.
Et du coup, combien ça coûte ?
L'entrée est à 10 000 francs CFA avec une boisson offerte. Vous pouvez assister à deux représentations les vendredis soirs ou trois les samedis soirs, en fin d'après-midi jusqu'au soir.
Et comment obtenir le programme des représentations à venir, Anna ?
Eh bien, il suffit tout simplement de visiter les réseaux sociaux du Gondwana Club et vous y trouverez toutes les infos nécessaires.
Merci, Anna.
Au plaisir, Diarra.
Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Samedi prochain, on se retrouve au Cameroun pour un focus sur la professionnalisation des jeunes cinéastes. Et sinon, n'oubliez pas que pour réécouter Alors on dit quoi, rendez-vous sur le site de RFI, sur Google Podcast ou iTunes. Suivez-nous sur Facebook, Insta et Twitter. On attend vos commentaires. Et merci à toute l'équipe d'Alors on dit quoi, Daba, Beverly, Claire, Mariam, Dibril et Guillaume. Salut, Oubno, Nocha, Gol, à bientôt.